initiés qu'au d'ailleurs est en vacances. Pendant ce temps, nous vous proposons une série de rediffusions. Nous avons choisi de vous faire entendre certaines des émissions les plus marquantes de la saison qui s'est terminée au mois de juin. Restez à l'écoute.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Lumière.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui décrypte les rouages de l'économie mondiale. Aux États-Unis, il y a deux jours, Sheldon Silver, président de l'Assemblée de l'État de New York depuis 20 ans, a été arrêté par le FBI. Un mot, un seul, résume ce qu'on lui reproche, corruption. Sheldon Silver est accusé d'avoir touché 6 millions de dollars de pots de vin. En Chine, plusieurs centaines de personnes ont déjà fait les frais de la campagne contre la corruption engagée par le président Xi Jinping. Au Brésil, dans le discours d'investiture de son deuxième mandat, la présidente Dilma Rousseff a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. De son côté, lors de son récent voyage aux Philippines, le pape François a vivement condamné la corruption qui gangrène ce grand pays catholique d'Asie. En France, la société Alstom, récemment rachetée par l'américain General Electric, a accepté de payer 772 millions de dollars d'amende au Trésor américain. Alstom avait versé des pots de vin pour emporter des marchés en Asie en particulier. Alors la corruption et la lutte contre la corruption sont omniprésentes dans l'actualité internationale. La corruption, nous le savons tous, moralement parlant, c'est mal. Juridiquement parlant, c'est souvent condamnable. Mais économiquement parlant, est-ce qu'il y a une définition économique de la corruption? Est-ce que c'est un facteur économique nuisible ou au contraire positif? Est-ce nécessaire pour mettre de l'huile dans les rouages, comme on dit souvent? Voilà les questions que je vais poser aux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Ariane Lambert-Mogilianski.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'école d'économie de Paris et vous avez un cours consacré à la corruption. Qu'est-ce que vous enseignez à vos étudiants?
Oui, c'est un cours de Master 2 dans le cadre du Master Économie publique et développement. J'enseigne justement les coûts de la corruption, les différents mécanismes de corruption et aussi un des aspects de la corruption, et tout le monde croit que c'est évident, que c'est très simple.
De corrompre ou d'être corrompu?
De les mécanismes de corruption. Les mécanismes de corruption sont très simples. Or, on montre qu'une recherche est nécessaire, puisque moi je suis chercheur et je dirige la chaire d'économie de la transparence et de l'intégrité, qu'on a besoin d'une recherche, d'un enseignement, qu'on a affaire à des mécanismes complexes et qu'il faut bien les comprendre pour pouvoir les combattre.
Avec nous aussi dans ce studio, Jacques Terret. Bonjour Jacques Terret.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Vous êtes le vice-président de Transparency International France, donc vous êtes un militant. Se battre contre la corruption, c'est un travail à plein temps?
C'est un travail à quasi plein temps. Je suis un retraité, j'ai été avocat pendant 40 ans de ma vie, mais c'est effectivement proche du plein temps.
Également dans ce studio, Jean-Yves Moisson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement et rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek, dont le dernier numéro est consacré à la gouvernance territoriale au Maroc. La corruption, c'est une thématique que vous abordez souvent dans cette revue Maghreb Mashrek?
Alors, il y a évidemment des articles consacrés à la corruption et à tous ces éléments du monde arabe, puisque, vous le savez, c'est connu, le monde arabe est un peu les mauvais élèves de la région, et donc c'est une réalité sociale dans l'ensemble du monde arabe contre lequel lutte un certain nombre de gouvernements et qui explique en partie le printemps arabe auquel nous avons assisté.
Alors dans cette émission, nous irons au Brésil rejoindre notre correspondant François Cardona qui nous parlera du scandale Petrobras. À Moscou, Muriel Pompon nous dira que la corruption coûte 300 milliards de dollars par an à la Russie. Nous irons à Tunis où Camille Lafrance fera le point sur la lutte contre la corruption et nous entendrons l'avocat camerounais Akere Mouna évoquer l'Afrique subsaharienne. Alors Ariane Lambert, vous êtes un peu la théoricienne de la corruption dans ce studio. Est-ce qu'on peut donner une définition de ce que c'est que la corruption ?
Il y a des définitions diverses et je crois que la définition que donc moi j'utilise dans mon cours, c'est en fait une définition, j'allais dire, juridique, celle qui est donnée par la Convention des Nations Unies, c'est ce qui est interdit. Donc quand on viole les règles qui ont été établies et qui doivent être reconnues. Par exemple, sur un marché public, il y a des procédures, si on les viole, on peut être dans la corruption si on le fait en collusion avec ceux qui organisent le marché public.
C'est une perturbation des règles économiques au-delà des règles juridiques.
Ça a des conséquences sur effectivement l'efficacité économique, parce que ces règles juridiques et ces procédures, par exemple dans les marchés publics, sont là pour garantir une concurrence loyale et saine. Lorsqu'on intervient dedans, donc la concurrence est faussée et le résultat est moins efficace. Par exemple, la construction des routes, on parle d'un surcoût de 20%. Du fait de la corruption et collusion.
Jean-Louis Moisseron, vous avez une définition, vous, de la corruption?
Non, parce que la corruption, elle prend de multiples formes. Si on regarde les pratiques quotidiennes de la corruption, elles ressortent aussi de ce qui est toléré, acceptable, accepté, ce qui est dans la norme. Et au fond, dans un certain nombre de pays, c'est vrai dans le monde arabe, le mot que nous utilisons, corruption, qui est fortement connoté négativement, qui est péjoratif, en réalité, il y a des pratiques corruptives, de corruption quotidienne, qui sont relativement acceptées par les normes sociales. Donc effectivement, il faut de la recherche, bien préciser le type de corruption auquel on a affaire. Il y a plusieurs types de corruption pour pouvoir commencer à débroussailler un peu le sujet.
Alors Jacques Terray, la grande corruption à laquelle vous avez affaire, contre laquelle vous battez, est-ce qu'elle appelle une définition, un cadre? Est-ce que vous la résumeriez d'une phrase ou de deux ?
Nous avons une définition large de la corruption qui englobe, par exemple, les transferts de flux illicites du sud vers le nord, qui englobe toutes les stratégies développées pour obtenir des marchés. Et nous disons, dans un terme beaucoup plus large, que la corruption, c'est l'abus par une personne des pouvoirs qui lui ont été délégués à des fins personnelles.
Alors, au cours des dernières années, l'un des pays emblématiques à la fois d'une corruption d'État, on pense à la période Ben Ali, puis de la lutte contre la corruption, cela a été, c'est la Tunisie. Pourtant, 4 ans après la révolution et la chute du régime Ben Ali, la corruption gangrène toujours le pays. C'est un reportage à Tunis de notre correspondante Camille Lafrance.
Un dessin animé qui dénonce la corruption. Initiative de l'association Twensa pour sensibiliser les citoyens. Tarek Marzouk, son cofondateur.
Payer 5 dinars ou 10 dinars pour son intérêt propre, après l'État va perdre des milliards. Des amendes non payées, des routes non réparées, les gens ils comprennent, mais parfois ils font pas l'effort d'acculer l'administration à l'honnêteté, parfois ils ont peur.
L'arsenal juridique doit être complété avec par exemple une loi pour protéger les dénonciateurs, assure-t-il. Les autorités multiplient les initiatives depuis la Révolution. Un ministère dédié a vu le jour, devenu secrétariat d'État à la gouvernance et à la fonction publique. Tarek Bahri, chargé de mission.
La corruption génère 2 points de croissance en moins. Et la gouvernance, qui est la prévention de la corruption, c'est 2 points de croissance en plus. C'est-à-dire, en valeur absolue, c'est 4 points de croissance. Si on s'y met pour mettre les réformes qu'il faut, nous avons un gain de 4 points de croissance. Si on traduit cela en productivité, en compétitivité, en emploi, c'est considérable.
Le secrétariat d'État met l'accent sur la formation des agents du public, la transparence des données. Il a également développé un référentiel national de la gouvernance. Non contraignant, il permet aux structures qu'il souhaite d'apprendre les bonnes pratiques par palier. L'instance nationale de lutte contre la corruption a, elle, été créée il y a 3 ans. Samir Anabi, son président.
Il est difficile d'évaluer le coût économique. Ceci dit, l'affaire est d'abord une affaire de mœurs politiques, de valeurs, qui n'a pas à être mesuré. C'est une question de base pour une vraie démocratie dans ce pays.
L'instance n'a pas les moyens de ses ambitions ni de son indépendance, souligne Samir Anabi, évoquant un manque de volonté politique.
Il y a la bureaucratie qui est là et qui résiste à tout changement, et que ce soit pour couvrir un passé que ce soit pour garder des pouvoirs.
Les actions de la commission spécialisée créée en février 2011 à l'Assemblée sont aussi restées limitées, explique Souad Belaziz, conseillère.
On a eu pas mal d'initiatives de loi qui n'ont pas abouti. C'est le retard qu'on a eu dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption qui fait que les députés n'ont pas un cadrage de travail.
La Constitution prévoit la création d'une nouvelle instance indépendante en charge de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Alors Jean-Yves Moisseron, dans ce reportage, Camille Lafrance nous fait entendre quelqu'un évaluant à 2 points de croissance que la corruption coûte à la Tunisie. C'est une évaluation que vous pouvez faire aussi de votre côté ?
Ah, je voudrais laisser la spécialiste pour faire ses estimations, parce que moi je pense que je suis assez critique vis-à-vis de ces évaluations. Je pense qu'elles sont extrêmement difficiles, qu'elles posent énormément de problèmes méthodologiques, hein. Elles font des choix méthodologiques pour essayer, elles se concentrent essentiellement sur la croissance. Or la croissance d'une économie, elle est le résultat de configurations extrêmement complexes d'un ordre social qui implique l'économie elle-même, mais aussi l'ensemble de la société. Et on a vu un certain nombre de pays vivre avec d'excellents taux de croissance et d'excellents taux de corruption en même temps. Donc il faut faire très attention sur ce que l'on fait de cette corruption. Est-ce que cette corruption, elle ne fait que ponctionner des ressources qui sont stérilisées pour l'économie ? Ça, c'est une possibilité. Ou bien cette corruption participe de formes de collecte de ressources qui sont utilisées productivement pour des investissements, pour un tas de choses utiles pour l'économie. Donc il faut, je crois, être nuancé sur cette question. Et on ne peut pas résoudre la question de la corruption simplement à son impact éventuel en termes de croissance. Il faut, à mon avis, se garder de choses trop... je ne veux pas dire simpliste, parce que les modèles qui sont utilisés sont sérieux, tentent de trouver la réalité, mais il faut bien prendre conscience que la corruption, c'est inscrit dans un système social de façon complexe, et donc en soi c'est un élément extrêmement difficile à appréhender, mais encore plus à quantifier.
Ariane Lambert-Mogilianski, cette quantification de la corruption, de son impact sur la croissance, alors, en Tunisie en particulier, là vous la partagez ou pas?
Alors il faudrait que je regarde très précisément, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il a été établi de manière systématique dans des travaux, c'était dans la fin des années 90 de Moreau, publié dans le QJI, Quarterly Journal of Economics, qu'il y a une corrélation négative entre corruption et croissance, corruption et investissement, donc qui est effectivement de l'ordre de 2%. Mais ça, c'est généralement sur une grande quantité de pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, le lien entre corruption et croissance, c'est assez clair qu'il est négatif, que ça affecte négativement. Maintenant, quel est l'impact précis en Tunisie, je ne saurais dire, parce que la corruption a tellement pénétré la structure pendant les années Ben Ali que, je veux dire, par exemple, pratiquement toutes les entreprises qui sont rentables sont exemptes d'impôts. Donc ces impôts qui pourraient servir au développement, à l'éducation, etc., ne rentrent pas. Et donc, évidemment, ça a un impact sur la croissance et sur les possibilités par ailleurs. C'est juste pour donner un exemple. Donc dans le cas de la Tunisie, il faudrait faire une analyse plus précise. Mais oui, je pense que c'est parfaitement le cas, que ça a un impact très négatif, et ça l'a très généralement. Voilà, ça c'est notre vision en tant qu'économiste.
Jacques Terray, la Tunisie, elle est emblématique de ce phénomène de la corruption d'État, je dirais.
En tout cas, la Tunisie a été le déclencheur dans les pays arabes du printemps arabe pour des raisons de corruption de l'élite, et en particulier, bien entendu, du président et de sa famille. Donc la Tunisie est pour nous un peu un modèle de l'indignation provoquée par la corruption. Et à ce sujet, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas que des impacts économiques à la corruption, mais il y a aussi des impacts sur la cohésion de la société et sur la confiance que les citoyens accordent à leurs dirigeants.
Mais est-ce qu'on peut expliquer une partie des problèmes économiques que la Tunisie continue à traverser par la résistance à la lutte contre la corruption des corrompus ou des corrupteurs?
Alors c'est compliqué, parce que je pense qu'on a quand même un peu changé d'époque, mais qui finalement, on a un fait paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a ce printemps arabe, il y a cette révolution démocratique, un certain nombre d'instances qui sont mises en place pour lutter contre la corruption, alors même que ces mouvements sociaux se sont en partie inscrits contre la corruption organisée par l'État, le clan Ben Ali, Trabelsi, etc. Et on voit aujourd'hui que malgré ces changements, les indices en termes de corruption ne s'améliorent pas. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc la première chose, c'est que la Tunisie était un peu un cas un peu particulier par rapport à d'autres pays arabes, dans le sens où il y avait un système de prédation, on peut dire, par un clan relativement limité, mais sur une échelle considérable et avec des moyens particulièrement violent en termes de comment dire, de captation de la rente, c'est-à-dire que c'était quasiment manu militari. Enfin, on arrivait à des procédures proprement scandaleuses et qui relevaient du banditisme. Donc effectivement, ça c'était mais ça restait une par rapport à d'autres pays comme l'Égypte par exemple, un système de corruption, de captation relativement centralisé, c'est-à-dire que la corruption était à l'image de l'État centralisé, c'était un clan particulier. Ce qui se passe après, évidemment qu'il y a des mauvaises habitudes qui sont prises, et je pense que quand on est dans une société très corrompue, où la corruption fait partie des pratiques sociales quotidiennes, c'est extrêmement difficile de l'extirper. C'est plus facile quand, en gros, les gens ne sont pas trop corrompus et qu'il y a des actes de corruption qui sont relativement identifiables, etc. Mais après la révolution, il y a aussi une forme de délitement des structures de l'État, de son autorité. Au fond, il y a cette administration qui continue à fonctionner, bat un peu du manche, si vous voulez, et chacun essaye. Du coup, il y a une espèce de décentralisation des formes de corruption qui, de ce point de vue-là, est un peu plus difficile à combattre. Et dernier point, c'est que évidemment, la lutte contre la corruption passe sur l'analyse des faits passés, ce qui s'est passé avant la chute de Ben Ali, et là, ça touche les problèmes de transition générale pour savoir quel type d'administration, qui on va garder, qui on va exclure, etc. Et ça, c'est un problème beaucoup plus général.
Ariane Lambert, Mojilianski, est-ce qu'on peut dater le démarrage de ces campagnes de lutte contre la corruption ? Parce qu'il y a eu toute une époque pendant laquelle la corruption était, sinon admise, du moins tolérée. Est-ce que, par exemple, la campagne italienne de Manipulite, main propre, dans les années 80-90, est-ce que ça marque un tournant ?
Il y a plusieurs grands événements. Moi, je pense qu'un des très grands événements, c'était le changement d'attitude de la Banque mondiale, de James Wolfensohn, qui a parlé du C-word. Et ça fait combien de temps ? 25 ans. C'est-à-dire que la corruption est devenue quelque chose dont on pouvait parler dans toute la problématique de développement. Et il l'a mis vraiment au cœur de la problématique de développement, et je pense que ça, c'est un moment extrêmement important. L'Italie connaît des problèmes de corruption depuis, j'allais dire, toujours. Manipulite a été un moment très important, mais ça n'a pas changé fondamentalement les choses, puisque cette justice indépendante était présente, juste, je veux dire, d'un fait constitutionnel après la Seconde Guerre. Donc, je pense que vraiment ce qui s'est passé pour nous, en tout cas du point de vue des économistes, c'est qu'on peut en parler, on peut la chiffrer, et il y a tout un tout.
Pourquoi
un
avant il y avait un veto
Il y avait un veto absolu. On pouvait pas prononcer le mot corruption lorsqu'on parlait de développement, lorsqu'on allait en avant. On ne pouvait pas. La corruption, et ça reste un problème. Je veux le dire vraiment, de la Commission européenne, tout ce qui se fait en Europe, voit la corruption comme un problème de droit. Ils cherchent, lorsqu'il y a des problèmes, des projets anticorruption, on cherche des juristes. On n'en a pas fait un problème social, économique, vraiment entier. Et avant, donc, c'était un problème, vous violez une loi, est-ce qu'on a vu les sous passer de droite à gauche ? C'était ça, la corruption. Or, la corruption, c'est devenu beaucoup plus large, c'est toutes ces inefficacités, avec les conséquences sur le manque de cohésion, avec les conséquences pour toute la dynamique de développement, qui sont, et c'est reconnu comme quelque chose de crucial, et je dois dire merci à James Wolfensohn pour ça.
Ancien
président de la Banque mondiale.
C'est la fin de la première partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré au coût économique de la corruption. Nous nous retrouvons dans quelques instants après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs est en vacances. Pendant ce temps, nous vous proposons une série de rediffusions. Nous avons choisi de vous faire entendre certaines des émissions les plus marquantes de la saison qui s'est terminée au mois de juin. Restez à l'écoute.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Lumière.
Deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Nous parlons corruption, coup de la corruption avec trois invités. Ariane Lambert-Mogilianski, professeur d'économie à l'École d'économie de Paris. Jacques Terray, vice-président de Transparency International France. Et Jean-Yves Moisseron, économiste à l'Institut de recherche pour le développement et rédacteur en chef de la revue Maghreb Machrek. Avant de nous interrompre, nous parlions de la Tunisie. Jacques Terray, est-ce qu'on peut situer la Tunisie sur une échelle de la corruption dans le monde? Parce que votre organisation a créé un indice de la corruption. Est-ce que la Tunisie est bien ou mal placée, haut placée?
Non, la Tunisie n'est pas très bien placée. Je ne pourrais plus vous citer le chiffre exact, mais sur les 170 pays, je pense qu'elle doit se situer du côté du 100e, du 120e rang.
Alors, quels sont les éléments qui vous permettent d'établir un tel classement? Comment est-ce qu'on aboutit à ce classement des pays corrompus?
Ce sont des éléments de perception qu'ont de la corruption dans un pays donné un certain nombre d'instituts de recherche à travers le monde, qui sont des recherches universitaires ou pour le monde des affaires, et qui consistent en gros à tester pour des investisseurs potentiels quels sont les risques d'un pays.
Alors, est-ce qu'un pays comme le Brésil est placé quelque part sur votre
Bien entendu, le Brésil est un pays important, donc il est situé. Il est également très mal situé. Je pense qu'il ne devrait pas être très très loin de la Tunisie, étant donné tout le bruit qui a été fait, notamment l'année dernière, autour de Petrobras.
Alors justement, le Brésil vit depuis plusieurs mois au rythme de ce scandale Petrobras, du nom de la compagnie pétrolière nationale. Ce scandale pourrait coûter très cher au pays, tant l'entreprise pétrolière se retrouve en difficulté. Pour en parler, nous rejoignons notre correspondant au Brésil, François Cardona. Bonjour François.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors, les sommes sont vraiment astronomiques, hein. Jamais le Brésil n'avait vu un tel vol organisé dans toute son histoire.
Effectivement, car plus de 3 milliards et demi d'euros auraient été volés, 10 milliards de réais brésiliens, c'est la somme astronomique qui aurait été détournée des comptes de Petrobras, le géant pétrolier brésilien, un scandale à rebondissement qui fait la une des journaux quasiment tous les jours ici depuis des semaines maintenant. L'enquête de la police fédérale est toujours en cours, mais elle a démontré, selon les informations publiées dans la presse, l'implication des principales entreprises de construction du pays, de hauts dirigeants de Petrobras et des grands partis politiques brésiliens.
Alors que sait-on aujourd'hui, François, du système de détournement de fonds qui a permis de faire disparaître plus de 3 milliards d'euros ?
Alors c'était un système de blanchiment d'argent très bien rodé, selon un principe relativement simple. Des dizaines d'entreprises de construction et de sous-traitants pétroliers ont truqué en les surévaluant. Les contrats passés avec Petrobras, comme ceux qui concernaient la construction de raffineries par exemple, à chaque fois la valeur du contrat était artificiellement gonflée de plusieurs centaines de millions d'euros parfois, et les responsables de ce système se partageaient les bénéfices. Les partis politiques brésiliens sont accusés d'avoir touché pendant des années un pourcentage fixe des sommes volées. Le Parti des Travailleurs, celui de la présidente Dilma Rousseff et de l'ancien président Lula est mise en cause. Dilma Rousseff, qui a été présidente du conseil d'administration de Petrobras, était-elle au courant? Évidemment, elle s'en défend, mais d'anciens ministres, des dizaines de parlementaires également figuraient sur la liste des bénéficiaires de la corruption à Petrobras.
Sans oublier, bien sûr, François, les retombées négatives sur l'économie brésilienne.
Oui, car Petrobras était jusqu'à présent l'orgueil national des Brésiliens, la plus grande entreprise publique d'Amérique du Sud, qui emploie aujourd'hui plus de 86 000 personnes. Mais surtout, Petrobras est responsable d'un dixième de tous les investissements au Brésil. À cause de ce scandale, tout a été mis en suspens, la crédibilité de l'entreprise est d'ores et déjà entachée. Petrobras n'a d'ailleurs toujours pas rendu public son bilan du troisième trimestre 2014. Or, l'entreprise est déjà endettée à hauteur de 135 milliards de dollars. Et pour exploiter les réserves de pétrole enfouies au large du Brésil, Petrobras envisageait d'emprunter 15 milliards de dollars supplémentaires cette année. Vous l'imaginez, aujourd'hui, tout est remis en cause. Le scandale Petrobras pourrait bien avoir des conséquences dramatiques pour l'avenir du Brésil.
Alors Ariane Lambert-Mogilianski, malgré les déclarations de la présidente Rousseff qui a déclaré la guerre à la corruption, il n'est pas interdit de penser que certains États tolèrent cette corruption, que c'est même, pour ainsi dire, un mode de gouvernance économique.
Très certainement, et là je pense que c'est tout le problème de la grande corruption, c'est-à-dire qu'il y a une relation très proche entre les grandes entreprises et le pouvoir. Il y a une tolérance dans les États qui sont clairement corrompus, comme l'était la Tunisie, mais d'autres, il y a un besoin très souvent dans les régimes démocratiques de financer les campagnes électorales.
On l'a vu en France.
On l'a vu en France, et ça génère des incitations à essayer de trouver effectivement de l'argent. Après, il y a une concurrence entre les différents partis, il y a un besoin de fonds et une régulation et des moyens qui sont insuffisants pour avoir vraiment une bonne vision, une bonne transparence de la gestion de ces campagnes électorales.
Mais en l'occurrence, au Brésil, ça semble dépasser le cadre très largement.
Oui, mais
le cadre
de la campagne électorale. Ça peut être ça. Et après, eh bien, quand on se rend compte qu'on peut avoir de l'argent, on l'a et on l'utilise pour renforcer sa position de pouvoir. Et quand on est au pouvoir, on a le cas du Pérou, où le système était complètement corrompu, là aussi. Et là, on voyait très bien comment
le président Fujimori.
C'est ça. Comment la corruption était utilisée pour maintenir le parti au pouvoir.
Jean-Yves Moisseron, c'est un phénomène que vous connaissez?
Oui, on le reconnaît partout. C'est-à-dire que la corruption, elle est inscrite, insérée dans à la fois la société, mais en même temps dans sa société politique. Donc il y a des articulations complexes, ramifiées, entre les actes, ce qu'on qualifie de corruption, la distribution du pouvoir, la façon de contrôler les populations. C'est intéressant, par exemple, de laisser se répandre une certaine corruption et de la condamner à certains moments, parce que ça permet de mettre un peu tout le monde en rang derrière l'autorité de l'État. Donc il faut bien comprendre qu'elle fait système dans toutes ces sociétés et que finalement la lutte contre la corruption suppose une forme de changement de système.
Alors, Ariane Lambert-Mogilianski, je vous donne la parole dans un instant, mais la Banque mondiale, vous l'avez dit tout à l'heure, mène la chasse à la corruption depuis que son président, Wolfensohn, l'a décrété il y a 25 ans. C'est particulièrement le cas en Afrique où les programmes d'aide de ces institutions sont conditionnés par ce qu'on appelle la bonne gouvernance. La corruption, cela coûte très cher à l'Afrique subsaharienne, estime l'avocat camerounais Akere Mouna, que j'ai rencontré il y a deux jours lors d'un passage à Paris. Akere Mouna, membre aussi de Transparency International.
Ça coûte très cher parce que les prix doivent être augmentés pour pouvoir permettre à ce que les entrepreneurs puissent payer. Les projets coûtent de plus en plus cher. Si vous regardez les chiffres de différentes infrastructures en Afrique, vous allez voir les variations incroyables entre le montant. Même si on va dans les mêmes pays avec les mêmes données géographiques, vous allez voir que ça coûte énormément cher. Et le principal variant dans cette histoire, c'est en fait le montant de la corruption.
Vous avez des exemples concrets de travaux publics, de projets qui ont été soit renchéris par ce phénomène de la corruption, soit tout simplement inventés. Est-ce que ça existe?
Je ne vais pas donner le nom des pays, mais il y a des pays où on a vu que, sur le papier, il y a des routes qui ont été construites qui ne le sont pas. Et si vous regardez, vous allez voir que le kilomètre de route part entre 25 et 100% de différence dans des pays qui sont pareils avec les mêmes données économiques. Donc le seul variant, n'est-ce pas, c'est la corruption. Avec la pression qu'il y a sur les sociétés de l'Occident, donc ça veut dire que du Nord, ces sociétés, n'est-ce pas, ne se livrent plus à cet exercice-là, font attention, mais par contre, ça laisse libre cours aux sociétés chinoises et autres. Et les adeptes de la corruption en Afrique trouvent que les Chinois les comprennent mieux.
Est-ce que vous pensez que cette corruption joue un rôle dans les problèmes économiques que connaissent les pays africains?
Un grand rôle, les projets sont freinés parce que ils ne vont pas y aller, parce qu'ils veulent savoir ils ont gagné l'argent. C'est très important. Un marché ne va pas le démarrer parce qu'on peut le déclarer infructueux, parce qu'il y a des complicités de part et d'autre. Et, bien sûr, si ça coûte plus cher, forcément, n'est-ce pas, les projets ne démarrent pas parce qu'on ne sait pas payer. Donc, le côté que je trouve quand même assez dur, c'est ce que c'est qui souffre le plus, les plus pauvres. Et ça, c'est grave.
C'est qui?
Les plus démunis de la société sont ceux-là qui trinquent en fin de compte.
Mais pourquoi?
Parce que si un hôpital n'est pas construit, ceux qui sont chargés vont amener leurs enfants et leurs familles à l'hôpital américain ici en Paris. Mais ceux qui sont dans le fond d'un village africain n'ont rien. ceux pour qui on a fait les routes pour qu'ils dégagent leur vivre vers les marchés pour les vendre, les routes ne sont pas là, mais nous autres sommes dans les villes, nous irons dans les supermarchés. Donc c'est quand même, l'école est mal financée, bon, mais ce sont ces enfants les démunis qui ont des problèmes, et les autres, on peut envoyer leurs enfants ailleurs. Donc c'est ça qui fait mal dans la corruption.
Ariane Lambert-Mogilianski, ce sont les plus modestes qui souffrent de la corruption.
Oui, tout à fait. Et c'est une des raisons vraiment qui me motive.
Dans votre métier?
Dans mon métier, oui, oui. Parce que le coût essentiel qui est porté par la corruption, c'est par les plus pauvres qui n'ont pas accès aux services publics, c'est-à-dire effectivement les services de santé, parce que l'argent disparaît en cours de route, parce que la qualité n'est pas assurée, ou parfois il y a un hôpital, il n'est même pas construit, ou alors il est construit à un endroit où je me rappellerai toujours de ce cas, où pour faire plaisir au fils du président, on a acheté son terrain. Alors c'était dans un service central de la corruption qui m'avait donné cet exemple. Or, ce terrain, on a construit avec l'argent international, ce terrain n'était pas électrifié et il n'y avait pas de projet d'électrification.
Donc c'est un hôpital sans électricité.
Un hôpital, ce qui a été, donc ça a été une, je veux dire, tant de gâchis, et comparé à ça, des gens qui souffrent et qui avaient besoin de soins et qui ne les ont pas eus. Donc c'est ça qui est vraiment révoltant. C'est que pour gagner un tout petit peu, le fils du président était prêt à laisser souffrir des milliers et des milliers de gens. Donc pour gagner 1 euro, on fait perdre 100 euros à la société. C'est intolérable, on est indigné. Et c'est vraiment une des choses qui me motive.
Ça vous motive aussi, Jacques Thérèse?
Oui, mais je voudrais quand même dire que il y a depuis l'année 2000 pratiquement des conventions internationales qui visent non seulement les corrompus dont nous venons de parler abondamment, mais qui visent aussi les corrupteurs, parce que nous avons une expression chez nous à Transparency qui dit il faut être deux pour danser le tango. Et les corrupteurs, on vient d'en voir un exemple en France avec l'affaire Alstom.
On en parlera plus tard.
Oui, je crois que il n'y aurait pas la même corruption dans les pays d'Afrique ou au Brésil ou ailleurs s'il n'y avait pas des compagnies internationales pour corrompre les décideurs publics.
Mais Jean-Yves Moisseron, Aker et Mouna dit les Occidentaux ne sont plus corrupteurs, mais les Chinois ont pris le relais.
Oui, alors je suis pas spécialiste de la Chine, mais je voudrais simplement dire à quel point les choses sont complexes, parce qu'on vient de dire tout à l'heure, ce sont les plus pauvres qui sont payés, qui sont les premières victimes de la corruption. Certes, mais en même temps, la corruption fait vivre énormément de pauvres, ou peut-être pas tout à fait les plus pauvres, mais disons le bas de la classe moyenne. Vous pouvez prendre en considération les pauvres policiers du monde arabe, que je connais un peu mieux, qui ont des salaires tout à fait de misère. S'ils ne pouvaient pas bakchicher les ronds-points, etc., ils seraient dans une situation beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que il faut peut-être être deux pour danser le tango, mais aussi il faut aussi un orchestre. C'est-à-dire qu'un État qui paye mal ses fonctionnaires, et en particulier ses policiers, ses juges, ses enseignants, qui ont très clairement des salaires de misère, évidemment que ils vont être incités à se livrer à cette corruption. Et il y a des choix de société à faire et des choix de ces États, à savoir si on paye suffisamment les fonctionnaires dans le cadre d'un budget tout à fait officiel, ou si on les paye mal et qu'on ferme les yeux finalement sur toute une série de pratiques illégales qui leur permettent quand même de survivre.
Trois invités dans cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré au coût économique et donc social de la corruption. Ariane Lambert-Mogilianski, professeur à l'École d'économie de Paris, Jacques Thérèse, vice-président de Transparency International France, et Jean-Yves Moisseron, chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement. Tout à l'heure, nous parlions du Brésil et de l'affaire de corruption qui ébranle la compagnie pétrolière Petrobras, autre puissance pétrolière où la corruption se porte bien, c'est le moins qu'on puisse dire, la Russie. C'est un reportage de notre correspondant Muriel Pomponne.
Dans le classement de l'ONG Transparency International sur la perception de la corruption dans le monde, la Russie pointe au 136e rang sur 175. Mais comment évaluer le coût réel de cette corruption ? Anton Pominov, directeur général de Transparency International Russia, répond par une pirouette.
We made this research how much corruption there is in a packet of milk.
Nous avons fait une étude. Combien y a-t-il de corruption dans un litre de lait ? Et on constate qu'environ 30% du prix payé en magasin est constitué de pots de vin que les producteurs doivent donner à différents niveaux. Je pose donc la question, combien l'industrie laitière perd-elle à cause de l'absence de concurrence, parce que des investisseurs refusent de venir sur ce marché à cause des barrières, des pots de vin, tous ces coûts qu'on ne peut pas évaluer. Et si vous ne pouvez pas l'évaluer, vous ne risquez pas votre argent.
En 2004, une étude avait estimé que la somme totale des commissions occultes versées en Russie atteignait sans doute 300 milliards de dollars par an. En tout cas, la corruption, mais aussi l'absence de protection de la propriété privée, le non-respect de la loi, éloignent les investisseurs. Anton Pominov.
C'est l'histoire d'un fonds d'investissement scandinave qui voulait s'implanter en Russie. Une de leurs voitures a été volée en Scandinavie et ils ont découvert qu'elle avait été transportée en Russie et que la femme d'un officiel la conduisait. Au bout d'un an et demi et des dépenses pour 4 fois le prix de la voiture, ils ne l'avaient toujours pas récupérée. Alors, la compagnie a renoncé à investir des milliards et à créer des centaines d'emplois en Russie, car ils étaient dans l'incapacité de récupérer leurs biens.
La Banque mondiale estime que la construction d'une route coûte 3 à 6 fois plus cher en Russie que dans les pays scandinaves. La pratique de la corruption ne concerne pas que le secteur économique, mais aussi la défense, la police, la justice, l'éducation et la santé. En moyenne, un quart des Russes déclarent avoir déjà payé un pot de vin. Il existe pourtant une législation anti-corruption. Anton Pominov.
Il y a un semblant de lutte contre la corruption avec l'adoption de lois conformes aux conventions internationales ratifiées par la Russie. Mais le problème, c'est la mise en pratique et la volonté politique. Elle ne va pas arriver comme par magie. Il faut la provoquer. En démocratie, c'est la compétition électorale qui pousse les hommes politiques à un certain comportement. Mais dans les régimes autoritaires, où il n'y a pas de compétition, il n'y a aucun moyen de créer cette volonté. C'est le problème. Si on ne change pas de président pendant 15 ans, si les gouverneurs restent en place pendant 20 ans, ils n'auront pas cette volonté, car ils seront satisfaits du système existant.
En 2013, d'après les chiffres officiels, seulement 1% des amendes pour corruption ont effectivement été payées.
Ariane Lambert-Mogilianski, 300 milliards de dollars détournés par an en Russie ? Au titre de la corruption, vient de dire Muriel Pomponne, c'est un chiffre absolument colossal.
Effectivement, il y avait une estimation de la Banque mondiale qui évaluait le coût à 2,9 trillions pour le globalement, c'est 5% du GDP global.
Du produit intérieur brut.
Du produit intérieur global. Donc ce sont effectivement, et donc dans ces 2,9 trillions, 1 trillion était payé en...
1 trillion, c'est...
1000 milliards payés en pot de vin. Donc aujourd'hui, ça a dû augmenter, c'était en 2009. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Si vous le permettez, j'aimerais revenir sur une petite chose, je ne sais pas si...
Allez-y.
Voilà. Donc, sur l'idée que la corruption peut être bien, peut aider lorsque les salaires sont trop bas. Et alors,
c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer en Russie aussi.
On pourrait l'imaginer un petit peu en Russie pour certaines choses, mais c'est en particulier pertinent pour les pays africains, par exemple. Et je veux dire que c'est un argument qu'on entend beaucoup et qui est très pernicieux et très dangereux. En particulier, regardez, par exemple, les professeurs d'école sont très mal payés. Si vous permettez aux élèves, à leurs familles, de payer ces professeurs d'école, à ce moment-là, l'éducation devient un marché. On peut acheter ces diplômes, et ça existe en Russie. C'est pour ça que c'est intéressant en Russie, où aujourd'hui, on ne peut plus aller chez un docteur sans qu'il y ait des recommandations. On ne sait pas comment il a eu son diplôme, alors qu'il y avait une superbe éducation, un système éducatif d'une très grande qualité. Aujourd'hui, à cause de la corruption, ce système éducatif est devenu... On ne peut plus avoir confiance. Et donc, on a un docteur qui peut, dans les pays aussi corrompus africains, qui n'a pas les qualifications... Il peut tuer votre enfant ou votre mère ou mal le soigner.
La corruption, c'est un marché ?
La corruption dans l'éducation, c'est les implications de la corruption dans l'éducation, soi-disant, pour aider ces gens qui sont mal payés par l'État, à des conséquences catastrophiques pour le pays. Ce sont des ingénieurs qui ne savent pas construire, qui construisent des choses qui s'écroulent. Et partout, des gens incompétents qui se retrouvent à prendre des décisions importantes pour la vie des gens. Donc oui, je ne suis pas d'accord. Et pour la police, c'est pareil. D'ailleurs, au Maroc, ils ont mis maintenant, on a des numéros pour pouvoir identifier le policier s'il vous demande, justement parce qu'on est très conscient qu'il faut se battre contre cette petite corruption qui a des implications grandes.
Jean-Yves Moisseron.
Oui, je pense que c'est tout à fait délétère. On le voit dans l'éducation. Moi, je l'ai observé très clairement en Égypte, au niveau même universitaire, où les professeurs, pour pouvoir arrondir les fins de mois, vendaient leurs propres polycopiés sous forme de livres, demandaient aux étudiants de signer un listing pour bien s'assurer que ils ne faisaient pas leurs cours, ils donnaient plutôt des cours particuliers auxquels les étudiants devaient venir pour avoir une chance d'avoir le, etc. En matière de formation, d'ingénieurs, de la police, effectivement, tout ça est tout à fait délétère. Moi, je pense que ça mine à la fois la qualité de l'enseignement, les compétences des gens, la légitimité, la crédibilité des diplômes, ça mine l'autorité de l'État quand il s'agit. Mais simplement, ce sont des procédures que l'on observe. Ce qu'on observe, c'est que des États acceptent d'avoir des niveaux de salaire pour leurs fonctionnaires qui sont manifestement et objectivement qu'ils ne peuvent pas vivre avec. Ça, c'était très clair en Égypte et en Tunisie. Enfin, moins en Tunisie, mais je le vois plutôt au Maroc. Mais en Égypte, c'était très clair avant la Révolution. Avec 60 euros par mois, le policier de base ne peut pas vivre. Et il est à la limite de la grande pauvreté. Et donc, les choix qui sont faits de négliger justement les salaires des fonctionnaires en fermant les yeux sur les pratiques corruptives, parce que ça, c'est aussi une méthode de contrôle de la population. On n'a pas parlé de ça, mais la corruption, c'est une façon de contrôler l'ensemble de la population. Ce sont des choix qui sont faits par des élites au pouvoir dans des pays, et ces choix ont effectivement des conséquences.
Alors, la corruption, il en a été question cette semaine au forum de Davos, qui réunit les grands décideurs internationaux du monde privé. L'envoyé spécial de RFI, Mounia Daoudi, y a rencontré Steve Almond, président monde du cabinet d'audit Deloitte, un des géants du secteur. Et aux yeux de Steve Almond, la loi ne suffit pas à enrayer ce phénomène de la corruption.
Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la corruption est mauvaise pour les affaires, mauvaise pour les gouvernements et très très mauvaise pour la société dans son ensemble. Donc il faut que les entreprises et les gouvernements s'allie. Mais ce n'est pas seulement une question de législation adéquate et de leur application, même si c'est très important. Et ce n'est pas seulement le fait que les entreprises respectent ces lois, même si c'est aussi très important. Je pense que nous avons besoin d'une nouvelle approche pour combattre la corruption. Une approche où les entreprises et les gouvernements passent d'une relation d'adversaire, comme on l'a souvent vu, à une relation de partenariat. Cela demande un véritable engagement. C'est ce que nous disons au gouvernement, mais c'est aussi valable pour les entreprises. Il faut qu'on voit plus de PDG s'emparer passionnément de ces questions, manifester cette passion dans leur expression publique. Nous disons simplement que le moindre acte de corruption est tout à fait incompatible avec les valeurs de nos compagnies et que nous ne le tolérerons pas.
Jacques Terray, les entreprises, elles sont au front dans la lutte contre la corruption ?
Certaines d'entre elles, effectivement, le sont. D'autres sont encore au stade de la communication.
C'est-à-dire
qu'elles émettent des codes de bonne conduite, des grandes déclarations, la main sur le cœur, mais qu'elles ne surveillent pas bien ce qui se passe au niveau de leur réseau commercial, par exemple.
Vous pensez à Alstom ?
Je pense par exemple à Alstom.
Qui a été condamné à 772 millions de dollars d'amende par les Américains, pourquoi ?
Parce qu'ils avaient monté à travers le monde un réseau de corruption des décideurs, et on a parlé tout à l'heure de l'Afrique, mais ça visait aussi la Pologne, par exemple, n'est-ce pas, l'Italie. Et donc, il s'agissait non pas d'actes isolés de corruption, mais bien d'un système centralisé. Et ce qui est plus inquiétant pour moi, c'est que ce système a pu durer environ 10 ans, et que les autorités françaises, jusqu'à maintenant, n'ont pas pris vis-à-vis d'Alstom les moyens de le faire cesser. C'est en train de se passer, mais c'est bien tard.
Ariane Lambert-Mogilianski, les pays développés comme la France, comme l'Allemagne, les pays européens sont contaminés par ce phénomène de la corruption ?
Oui, ils ne sont pas uniquement contaminés, ils sont parmi les grands responsables, hein. Sont vraiment les grands responsables dans les pays africains. Mais j'aimerais revenir sur le rôle des entreprises, qui je pense est essentiel. C'est précisément ce que nous faisons actuellement à la chaire, c'est développer une recherche, parce que c'est très compliqué. Quels sont les mécanismes que peuvent utiliser les entreprises pour se protéger de la corruption ? Parce qu'aujourd'hui, avec ce genre de résultats comme Alstom, elles sentent qu'elles sont vraiment vulnérables, que c'est dangereux. Comment peuvent-elles se... Et nous leur proposons, c'est loin d'être évident, quels mécanismes, par exemple, sur les marchés publics, nous réfléchissons sur une méthode pour combattre le favoritisme qui fait participer les différentes entreprises dans le cadre même du marché. Ce sont des relations stratégiques extrêmement complexes et j'aimerais vraiment dire que nous avons besoin de moyens et de cerveaux pour travailler là-dessus et que les grandes entreprises avec nous, que c'est quelque chose que nous pouvons faire ensemble. Donc il y a une initiative de la part de la société civile, donc partie des entreprises, très importante. Les lois ne suffisent pas. Il faut des nouveaux mécanismes, des mécanismes innovateurs développés avec les entreprises.
Eh bien c'est la fin de cette émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs, consacrée à la corruption, à son coût économique. Merci à vous, Ariane Lambert-Mogilianski, Jean-Yves Moisseron et Jacques Terret d'y avoir participé. Guillaume Munier était au pupitre technique à la réalisation de l'émission. Vous pouvez nous réécouter ou nous podcaster sur le site internet RFI.fr. Je vous dis à la semaine prochaine pour une émission consacrée aux grandes manœuvres autour de l'euro.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.